Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Musique. Arne Laporte.
Autour de moi ce soir, Lucille Gaumeau, Emmanuel Dupuis et Charles Ardenne pour parler ensemble de Lady Macbeth de Minsk de Dmitri Shostakovich, direction Ingo Metzmacher, mise en scène Christophe Walikowski, c'est en ce moment à l'Opéra de Paris, La Chauve-souris de Johann Strauss, direction musicale Faisal Karoui, mise en scène Célie Pote, en tournée. Un disque, la 9e symphonie de Beethoven, dirigée par Seiji Ozawa chez Decca, et puis un coup de cœur d'Emmanuel Dupuis pour un autre opéra, Ariane et Barbe Bleue de Paul Ducasse, dirigé par Pascal Roffé, mise en scène Stefano Poda, c'est au Théâtre du Capitole à Toulouse. Et nous ouvrons cette dispute avec Lady Macbeth de Minsk, de Dmitri Shostakovich, à l'Opéra de Paris. Donc, nous avions parlé en 2016 de la mise en scène de Dmitri Tcherniakov à l'Opéra de Lyon, de cette œuvre écrite en 1934. Cette fois, c'est donc la vision de Christophe Walikowski dont nous allons parler. On parle régulièrement de Christophe Walikowski dans cette émission. La dernière fois, pour mémoire, à l'Opéra de Paris, c'était Don Carlos et c'était pas vraiment sa plus grande réussite de mise en scène. Vos avis à toutes et tous étaient quand même, le mien aussi d'ailleurs, plutôt critique de façon très négative, mais on a pu autrefois dire beaucoup de bien du même Christophe Walikowski. On verra ce qu'il en est pour cette fois. C'est un opéra qui est inspiré du roman de Nikolaï Leskov qui raconte l'histoire de Katerina, femme mal mariée au fin fond de la Russie, qui est seule, qui est harcelée par son beau-père, un terrible prénom de Boris, qui tombe amoureuse d'un employé de son mari qui s'appelle Sergueï. Elle finit par empoisonner Boris, qui a découvert leur liaison. Il va y avoir des morts, il va y avoir des rebondissements, il va y avoir des arrestations, il va y avoir des condamnations, il va y avoir du bagne, enfin beaucoup beaucoup de choses. Premier tour de table, une phrase exprimant votre ressenti sur ce spectacle. Lucille Gaumeau pour commencer.
Vraiment grande œuvre, grand orchestre, l'opéra Bastille à son mieux, vraiment spectaculaire.
Charles Ardenne.
Inratable.
Ah. Alors ça, Emmanuel Dupuis.
C'est un spectacle coup de poing, à la fois pour la mise en scène, parce que je trouve qu'il y a vraiment une très grande adéquation entre l'univers de Walikowski et la modernité de l'ouvrage, et puis pour l'interprétation musicale aussi, qui m'a beaucoup impressionné.
On va essayer de développer un peu tout cela. On reviendrait sur cet inratable. On peut toujours rater, vous savez. Mais je commence par Lucille Gaumeau qui va nous donner quelques images, qui va nous décrire l'espace de jeu pour cette production. C'est une nouvelle fois la scénographe attitrée de Christophe Walikowski, Malgré Zatachechniak, qui a conçu cette scénographie. Qu'est-ce qu'on voit sur ce plateau très grand de l'Opéra Bastille?
Alors on voit d'abord le rideau, un rideau blanc tout simple, avec une vidéo qui est projetée, qui sera projetée à plusieurs reprises pendant le spectacle. On distingue des corps féminins nus qui flottent, on se rend compte que l'élément est aquatique. Ensuite le rideau se lève sur une scène qui est vraiment très très ouverte, la grande scène de l'Opéra Bastille. D'un côté il y a des grands bancs métalliques qui sont en fait des bancs, ça évoque quelque chose d'industriel, ce seront en fait des bancs d'abattoir. On est dans un abattoir. D'ailleurs, assez rapidement, il y a un mécanisme qui se met en branle sur le côté gauche avec des crocs de boucher et des carcasses de porc qui commencent à circuler. Et puis le cœur, dans le premier acte du moins, sera vêtu d'habits de boucher dans un atelier de boucherie. Et puis de l'autre côté, il y a ces fameux modules. Il n'y en a qu'un cher à Walikowski, donc un module qui sera pour le coup présent quasiment tout le temps et qui est d'abord, dans un premier temps, l'intérieur de l'héroïne, avec une chaise, un lit. Bon, le lit sera déterminant. Et ce module-là, il va circuler. Le deuxième acte, pour le coup, la scène sera entièrement vide. Ce sera la grande fête de mariage, puisque Katerina se remarie, on peut le dire sans trop gâcher. Et puis la fin, l'acte 3, bon, on en reparlera. Moi, je trouve que c'est plus décevant du point de vue du décor et aussi peut-être de la mise en scène, le bagne sera figuré par ce même module qui sera au centre de la scène. Ouais. Voilà, exactement.
Alors justement, sur les partis pris de mise en scène de Christophe Wajkowski, Charles Arden, vous disiez un ratam tout à l'heure, comment vous l'entendez ?
Eh ben, dans les deux sens un peu, c'est-à-dire que cette œuvre a un peu la réputation d'être inratable, elle est déjà tellement expressive, il se passe tellement de choses dont vous avez un peu parlé, avec des empoisonnements aux champignons, des meurtres, ça finit dans un bagne de Sibérie, mais aussi, je fais un petit jeu de mots aussi, pour moi c'est une mise en scène qu'il ne faut pas rater, qu'il faut aller voir, qu'il faut vraiment admirer, elle a une cohérence qui moi m'a vraiment stupéfait. Lucille présentait les différents épisodes, mais ils sont tous en fait dans cet abattoir, puisque même les noces, en fait c'est un rideau rouge de cabaret qui est tiré sur les murs, sur des crochets comme étaient tirés les porcs. Il y a ce cabaret incroyable, éblouissant, et en même temps avec une stripteaseuse au tantote, un crooner, enfin tout ça est très très impressionnant. Et quand les rideaux se rouvrent, on revoit les carcasses de porcs, mais on revoit aussi la carcasse du mari, enfin le corps du mari pendu. Le bagne aussi, c'est très cohérent, il garde cet univers glacial, froid, simplement en éteignant les lumières, et comme ça a été dit, la chambre à coucher qui est tout le temps présente dans l'abattoir devient cette fois un train de déportation et une prison qui va mener voilà, à la fin du terrible drame.
Emmanuel Dupuis, vous parlez tout à l'heure dans cette phrase d'accroche, ce tour de chauffe de la dispute, d'une adéquation entre l'univers Wajkowski et cette opéra. Elle passe par les éléments que viennent de décrire Lucille Como et Charles Arden, mais de quelle façon pour vous, comment vous l'avez ressenti ?
Bah, tout simplement parce que bon, c'est quand même une des œuvres qui est les plus modernes, enfin qui reste les plus modernes de tout le répertoire, même si elle est bientôt un siècle. Ouais. Et tout simplement, il y a une adéquation entre le langage théâtral de Wajkowski, qui lui aussi est très moderne, et cet ouvrage-là. Cette adéquation qu'on ne percevait pas, par exemple, dans le Don Carlos de Verdi. D'autre part, moi, ce qui m'a vraiment marqué là, c'est la façon dont Wajkowski montre l'horreur, et en particulier l'horreur sexuelle, mais sans filtre, sans concession. Et alors, ce qui peut d'ailleurs poser question, parce que peut-on aujourd'hui sur une scène de théâtre montrer des viols tels qu'il les montre, c'est-à-dire bon, c'est vraiment représenté de façon extrêmement extrêmement réaliste. Ça peut poser question. Dans la salle, ça posait des questions d'ailleurs. Autour de moi, il y avait des dames qui étaient apparemment un petit peu choqué.
Alors sur ce point juste, et je reviens vers vous, Emmanuel Dupuis, Lucille Como.
Oui, juste sur l'horreur et sur l'effet de terreur que la mise en scène peut produire, il faut quand même dire qu'elle est tout le temps contrebalancée, et ce qui est aussi à la fois dans le livret et dans la musique, par des effets comiques qui mettent en permanence à distance, et la scène que vous décrivez, qui est en effet une scène de viol collectif, qui est la première scène sexuelle, donc qui fonde la manière dont les rapports entre hommes et femmes vont après se développer, elle est entourée, ne serait-ce que parce que ça se passe dans un abattoir, par une sorte de comique noir, en tout cas d'humour noir, qui met à distance le spectateur.
Il y a des moments très drôles et qui sont liés à la maîtrise qu'a Wajkowski de la musique aussi. Par exemple, à la fin des ébats, vous avez un glissando de trombone qui figure... voilà, je ne vais pas être plus descriptif que ça. Pendant le viol, on n'a pas l'image, c'est dommage. Pendant le viol, il y a un des bouchers qui caresse une carcasse de porc. Enfin, il y a en effet, comme a dit très bien Lucille, cette dimension comique et décalée aussi.
Emmanuel Dupuis pour poursuivre.
Et il y a l'importance donnée à ce qui est normalement un tout petit rôle, c'est le rôle d'Axinia. Axinia, normalement, c'est une servante. Elle rentre, elle se fait violer par Sergueï et ses acolytes, et elle disparaît, elle sort de scène, on ne la revoit plus. Là, Axinia, après la scène de viol, reste en scène pendant pratiquement les deux premiers actes, tout le temps. Elle est la maîtresse de Boris, en fait, le vieux patron de ce qui est maintenant un abattoir. Normalement, c'est un domaine agricole, tout simplement. Mmh. Et donc, elle est sa maîtresse. Et après que Sergueï et Katerina ont assassiné Boris et son fils, on voit Axinia se rapprocher du chef de la police. Donc, on comprend que c'est elle qui va les dénoncer. Mmh. Et elle tient sa vengeance de... par rapport aux deux crimes qui ont été commis, mais aussi sa vengeance par rapport au viol qu'elle a subi. Donc, Wajkowski montre le viol, mais en même temps, il le dénonce, ou plutôt, elle le dénonce. Donc finalement, il y a quand même une donnée féministe aussi dans cette lecture.
Charles Arden.
D'autant que Axinia, elle est interprétée par Sofia Petrovic, qu'on connaît parce qu'elle a fait l'Académie, dont on parlera tout à l'heure, ouais, pour la chauve-souris.
Jeune chanteur de l'Opéra de Paris.
Exactement. Et alors là, vraiment, on voit tout l'intérêt de ce programme. C'est une femme fatale et qui garde sa qualité de chant lyrique jusque dans les scènes de viol les plus atroces.
Tout à fait, mais et malgré tout, elle n'a pas beaucoup à chanter, mais par contre, elle a une présence d'actrice.
Présence scénique, ouais.
Voilà, sidérante, ce qui montre bien quand même le talent de directeur d'acteur de Falkowski, en ce qui la concerne, mais en ce qui concerne tous les interprètes d'ailleurs.
Lucille Comeau, encore un mot peut-être justement là-dessus.
Il fait vraiment de tous les personnages les plus secondaires, y compris, il en ajoute, parce qu'il y a cette scène de foule du mariage, chacun, enfin, on a presque trop à voir, il y a des subtilités qui se nouent entre l'orchestre, entre ce qui se passe à la fosse, ce qui se passe sur scène. C'est presque trop pour le spectateur. Moi, je pense qu'il faudrait le revoir.
Ah oui, le revoir. Le pop est génial, il a un côté un peu sénile et illuminé. Illuminé qui résonne avec le maître d'école qui trouve des âmes dans les carcasses de grenouilles. Le vieux bagnard qui a une voix de Boris Godounov, et ça montre toute la qualité de cette distribution et des artistes à l'Opéra de Paris.
Alors justement, on va parler quand même de musique. Commençons par écouter un extrait de cette Lady Macbeth. On va l'entendre, Lady Macbeth, dans l'acte 1, qui se plaint donc d'être délaissée, elle ne va pas se plaindre longtemps, on va dire ça comme ça, et les paroles, pour donner quelques idées, c'est assez imagé, hein. Le poulain se hâte de rejoindre la jument, le chat réclame la chatte, le pigeon aspire à la pigeonne, il n'y a que moi, que vers moi, que personne ne se presse, bon, etc., etc. Personne ne vient à moi, personne ne vient à moi. Voilà pour cet extrait. Alors Emmanuel Dupuis, qu'est-ce qu'on vient d'entendre déjà?
Alors nous venons d'entendre Osrin Stundit, qui est une des grandes titulaires actuelles du rôle-titre. C'est elle d'ailleurs qui le chantait dans la production de Tcherniakov à Lyon. Il y a quelques saisons. Alors c'est peut-être pas la plus belle voix qui soit, mais elle réalise une performance de chanteuse-actrice absolument sidérante. Et là encore, on le doit probablement beaucoup à Verlikowski, qui montre notamment la dépendance au sexe de cette protagoniste de façon très éloquente. Et c'est cette dépendance au sexe qui va la pousser à commettre par trois fois l'irréparable. C'est un grand soprano tranchant, comme on l'a entendu dans cet extrait, mais qui est quand même capable de s'alléger pour chanter son désarroi par moment de façon beaucoup plus délicate. Et puis, le reste de la distribution, moi personnellement, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucun maillon faible. J'ai trouvé Dimitri Ulianov absolument parfait pour jouer le vieux Boris, avec une voix qui a beaucoup de legato et puis une façon de transformer ce legato en épanchement de fiel. C'est assez, assez sidérant. Et le Sergueï de Pavol Cernoche aussi est assez fabuleux. Il joue une espèce de Don Juan de basse-cour avec un physique Iliade, mais aussi
cow-boy.
Au début, il a un chapeau de cow-boy. On se demande un petit peu pourquoi, mais enfin bon, pourquoi pas après tout. Et puis un très beau timbre aussi, très beau phrasé. Donc
Lucille Comeau sur ce plateau vocal.
Oui, moi je trouve ça très intéressant justement qu'il soit en cow-boy. Ça apporte quelque chose de poisseux des États-Unis du Sud, qui n'est pas forcément une évidence et qui apporte quelque chose justement sur la question sexuelle. Moi sur la chanteuse principale, moi j'ai vu le spectacle à une avant-première de l'opéra qui est réservé à un jeune public. C'est d'ailleurs très agréable de voir un opéra avec uniquement des jeunes, je dirais le dire. La question sexuelle ne se pose pas comme on peut craindre parfois à l'Opéra de Paris, qu'on s'affole un petit peu quand il y a des scènes explicites. Là, en l'occurrence, on sent que c'est pas une question qui se pose. C'est plutôt agréable. Bon, revenons au plateau vocal. Moi, j'ai eu un petit peu peur sur sa voix, elle, tout au début, parce qu'elle a en effet quelque chose de très sec, presque d'aigre, mais en fait, l'aigreur, c'est toute la question. Donc, on se dit que c'est pour le coup un vrai choix. Et en effet, elle a une voix qui s'épanouit à l'acte 3, elle a une voix absolument splendide qui prend en profondeur et vraiment tout l'effet, puisque tout se passe à un niveau charnel, sensuel dans ce personnage, chez cette personne-là, se retrouve dans l'évolution même de sa voix, de sa tessiture, de son timbre tout au long du spectacle. Et ça, c'est vraiment très fort. Et moi, je suis d'accord aussi avec Emmanuel Dupuis. J'aurais même pas vraiment de choses saillantes à dire sur les personnages, notamment masculins. Je les ai trouvés tous excellents.
Pour vous aussi, Jean Larden ?
Oui, et par rapport à ce qui vient d'être dit, il faut aussi dire que pour la première représentation, l'accueil du public a été tout de même triomphal.
Kowski ne s'est pas fait insulter,
non,
siffler.
Non, il
devait être surpris.
C'est la première fois que ça lui arrive à l'Opéra de Paris.
Pour Varlikovski, quand il rentre, moi j'attendais quelques huées habituelles.
Il a fallu une douzaine de productions pour que ça lui arrive.
Oui, il a ça au bout d'un certain nombre de productions. Ou alors quand les œuvres sont reprises, ça fait scandale à la première.
Non, quand ça reprend, oui.
Et puis quand c'est repris, on se dit, mais en fait, c'était pas mal.
Il en a fait des très belles avant.
Shostakovich n'est pas Gluck aussi, donc il y a peut-être aussi...
Oui, c'est ça, là, ça s'articule tellement bien.
Exactement.
Je trouve que son Iphigénie en Tauride, c'est une des plus belles productions qu'il ait faites. On ne va pas rentrer à la dispute là-dessus.
Mais là, il n'y a aucun soupçon de gratuité possible, en fait. Aucun soupçon de gratuité sur la violence, sur le sexe. On ne peut tellement pas le soupçonner de ça, étant donné la matière de l'œuvre qui est en elle-même tellement charnelle que bon, voilà.
Bon, adéquation pour Emmanuel Dupuis, avec des applaudissements mérités. Mais on revient à la musique quand même. Tiens, Emmanuel Dupuis, à nouveau, reparlons quand même du chef, de l'orchestre, qui ne sont pas pour rien, j'ai l'impression, dans ce succès... unanimement reconnu.
Exactement, et il faut surtout parler d'Ingo Metzmerer, qui est un très grand chef et qui parvient à apprivoiser l'acoustique de Bastille, que l'on sait quand même assez ingrate. Il parvient à l'apprivoiser comme très peu d'autres chefs l'ont fait avant lui, c'est-à-dire il parvient à faire sonner l'orchestre avec une unicité de texture, de couleur, un impact qu'on a rarement entendu à Bastille, et c'est en même temps une direction qui varie les climats à l'infini. C'est-à-dire, il y a par moments des moments de très grande tendresse, on se croirait par moments dans Tristan et Isolde, et puis à d'autres moments des climax totalement déchaînés, en particulier pendant l'interlude qui se situe au cœur de l'acte 2, et puis pendant le final où les cuivres sont placés sur les balcons latéraux, ce qui crée des effets de spatialisation absolument sidérants. Et là, à ce moment-là, on a le sentiment qu'à l'effroi dramatique de ce qui se passe sur scène, répond une sorte d'effroi sonore. C'est vraiment très, très saisissant.
Lucille Comeau,
oui, vraiment, ça n'arrive jamais. Enfin, moi, j'ai jamais été saisie par l'orchestre à ce point. Bon, la spatialisation est pour beaucoup, en effet, notamment les derniers accords, enfin, ce qui résonne à la fin de ce terrible acte 4, avec les cuivres en hauteur sur les côtés, c'est vraiment très, très impressionnant. Moi, je suis très impressionnée par le chef et par sa direction.
Charles Ardenne, pour finir.
Oui, je dirais pas que l'acoustique de la bassie est ingrate, mais il faut la remplir, il faut mettre du son. Même quand on se met tout au fond, le son, il peut se déployer. Mais voilà, quand l'orchestre est comme ça impliqué, on a l'impression que l'orchestre et les chœurs, là, ont vraiment eu envie de faire quelque chose de beau. Ils travaillent moins quand c'est des reprises du répertoire ou du bel canto. Là, vraiment, ils sont impliqués, d'autant plus que... Pour ce qui concerne les chœurs, ils sont impliqués dans leur jeu d'acteurs et ça a forcément une influence sur leur implication vocale.
Bon, pour toutes ces raisons, vous comprenez bien qu'il faut essayer d'obtenir des places pour aller voir Lady Macbeth de Dmitri Shostakovich jusqu'au 25 avril à l'Opéra Bastille. Mais rattrapage possible, et c'est tant mieux pour une diffusion autre, certes, mais sur Arte Concert. Cette production sera diffusée le 16 avril. Elle sera donc ensuite disponible en replay sur le site, ce qui est aussi quand même un moyen de démocratiser. On n'est pas dans la salle, mais quand même, vous pourrez voir, entendre dans de très très bonnes conditions sur Arte Concert. Mais évidemment, si vous pouvez, Opéra Bastille, on espère et on imagine que cette production sera reprise dans les saisons qui viennent. Alors, est-ce que ce sera le même chef, ce sera le même palato vocal? C'est une autre histoire. Bon, à suivre dans la dispute, la chauve-souris, la 9e de Beethoven, Ariane et Barbe Bleue.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Suite de cette dispute consacrée à la musique avec la chauve-souris de Johann Strauss, actuellement en tournée, qui passera bientôt par Compiègne, Amiens et Grenoble. L'Opéra de Paris a confié les jeunes chanteurs et musiciens de son académie donc à la metteuse en scène Célie Pote. Elle s'empare ici d'un classique de l'opérette viennoise et va jouer sur deux tableaux, on va en parler. Celui du plaisir immédiat de l'ouvrage, mais aussi sur le fait que cette chauve-souris fut montée par les artistes juifs internés dans le camp nazi de Theresienstadt. Tout commence par une voix off enregistrée, Charles Ardenne, celle de Célie Pote, qui explique comment elle a vécu cette proposition de l'Opéra de Paris. Comment est-ce que vous avez vécu cette introduction ?
Bah justement, cette voix off enregistrée, pour moi, ça a été le début de la gêne et du malaise, pour toutes les mauvaises raisons, en raison du prétexte de la mise en scène qui, selon moi, est inaboutie, à peine esquissée. Mais le travail musical est remarquable.
Bon, ça, on y viendra. Interprètes, chanteurs et musiciens vont entrer durant ce long texte enregistrés, vont ensuite décliner leur identité, leur pays d'origine. Avant qu'ils commencent à jouer à chauve-souris, peut-être quand même rappeler Emmanuel Dupuis, là on reste vraiment sur l'ouvrage de Strauss, de quoi il s'agit, c'est pas très évident à résumer.
Voilà, non, c'est l'emblème de l'opéra de viennoise. Ouais. C'est vraiment à Vienne, la chauve-souris, c'est un monument qui est joué tout le temps.
Et il y a plein de tubes. Hein.
Voilà, c'est bourré de tubes. C'est avant tout un vaudeville. Les portes claquent, c'est plein d'imbroglio, de quiproquo. C'est une comédie, c'est la fête. Et c'est ça, c'est cette sorte d'ébriété comique qui a totalement manqué pendant ce spectacle.
Bon, ça c'était peut-être une première introduction. Et alors donc quelques mots de Lucille Comeau pour une première impression vraiment sur cette chauve-souris.
Bah malheureusement c'est un petit peu la même. On sent un enthousiasme, on a envie en fait d'aimer le spectacle parce que les musiciens sont présents et que c'est des jeunes musiciens. Mais bon, la mise en scène, les deux tableaux dont vous parlez, leur superposition pose quand même beaucoup de questions et de problèmes.
Elle fait comment d'ailleurs, Célie Pote, pour décrire un petit peu cette superposition et de tableau, Lucille Comeau?
Alors la scène est vaste, hein, dans la MC93, ce sera probablement pas forcément le cas dans tous les endroits, on en reparlera. Pour
on
moi,
a
ça
vu,
a été
donc,
aussi
Bobigny,
un des problèmes.
Effet,
voilà, Bobigny, c'est grand. Alors, il y a l'orchestre est sur scène, c'est un tout petit orchestre, en fait, c'est un quatuor à cordes avec, je crois, un hautbois, une flûte et un piano.
Ouais, ils sont sept instrumentistes.
Voilà, et le directeur, enfin, le chef d'orchestre. Et puis, il y a un décor qui se met en place à droite, qui est en fait un décor de, en effet, de vaudeville un peu particulier, des tapis, des fauteuils. Ça deviendra une salle de bal dans le deuxième acte et puis la prison dans le troisième. Et surtout, il y a en fond de scène un grand panneau gris sur lequel sont projetées des photos, notamment une photo de Caen en noir et blanc, et puis sur lequel seront projetées des vidéos à certains moments clé, entre guillemets, ça me pose beaucoup de problèmes, de l'opérette. Des vidéos qui sont une sorte de travelling où on voit l'extérieur du camp de Theresienstadt.
Oui, deux grands pans de murs qui deviennent des surfaces de projection. Emmanuel Dupuis, sur cette mise en scène de Célipote.
Bon, disons qu'il y a un côté théâtre de tréteaux qui pourrait être assez plaisant. Par son économie, mais le problème, c'est la dramatisation excessive du propos, parce que bon, diffuser des images d'archives montrant les camps pendant le déroulement de ce vaudeville, de cette comédie, il y a une contradiction qui est évidente, qui est voulue, mais qui noircit beaucoup trop le propos. Et alors le comble est atteint au début du troisième acte, quand le personnage de Froche, qui est un rôle parlé, intervient, et là où il nous fait une véritable leçon d'histoire, racontant l'histoire du camp et à la suite de ça, un film de propagande nazie sur le camp Thérésine est diffusé dans son intégralité. Alors là, bon, inutile de vous dire que l'ambiance est totalement plombée et que donc on passe totalement à côté de l'esprit de l'œuvre, de son esprit comique, de sa veine comique. Et c'est cette veine comique qui a porté aux prisonniers dans les camps justement la lueur d'espoir qui leur manquait. Donc finalement, il y a une contradiction entre le projet théâtral et le résultat.
Alors, vous dites ambiance plombée, moi aussi j'étais pas une soirée de jeunes, mais une après-midi de scolaire à la MC 93, je l'ai vu avec 300 ou 400 collégiens et lycéens autour de moi, et cette scène dont vous parlez, c'est Gilles Ostrovski, le comédien qui interprète le geôlier de la prison, il le joue donc ivre mort, n'arrivant pas à trouver ses mots, moi j'ai trouvé ça épouvantable, mais je peux vous dire que les jeunes gens étaient tous morts de rire et qu'au salut, c'est lui qui a raflé la mise. C'était une rockstar quand il est venu pour les saluer.
Bon,
ça a marché sur eux. Je dis pas ça. Moi, je trouve que ça a vraiment. J'aime beaucoup Célipote. J'ai défendu quasiment toutes ses mises en scène théâtrales, en tout cas celles que j'ai pu voir. Et vraiment, je trouve que c'est quelqu'un qui a une grande finesse. Là, je pense que c'est une erreur absolument monumentale qu'elle a. Même d'ailleurs, c'est très curieux, c'est très long hein, ce texte introductif, cette voix off où elle raconte. On m'a proposé ça
sent l'auto-justification,
mais je savais pas comment
pas
faire. Alors j'ai trouvé ça, et donc c'est vraiment une auto-justification. Et elle se tire une balle dans le pied, à mon avis, d'une façon
totalement,
totale et un peu et ça plombe le spectacle qui par ailleurs, j'y reviendrai, mais est quand même plutôt très enlevé. Et on bénéficie d'interprètes qui ont envie de s'amuser, qui sont pas dans cette lourdeur là, et ça vient figer des choses. Mais bon. Pour dire le ressenti des jeunes gens, eux, ils ont adhéré, par exemple, à cette proposition. Charles Ardenne.
Mais le problème, en effet, c'est le prétexte. Elle explique qu'elle ne connaissait rien à l'œuvre, qu'elle a découvert que ça a été joué dans un. Elle dit en 2017, je crois. Non, mais c'est pas sérieux de confier des projets comme ça à des gens qui connaissent à rien des objets. Vous parliez
metteurs en scène doués au théâtre, des mises en scène d'opéra avec des jeunes interprètes. Pourquoi pas?
C'est mieux.
Quel est le problème, Charles Ardenne?
C'est mieux s'ils connaissent un peu, s'ils ont déjà entendu parler de là,
c'est bien d'avoir un
regard neuf, pourquoi pas, mais dans ces cas-là, il ne faut pas placer cette œuvre dans un camp de Thérésine montrer ses vidéos.
C'est autre chose,
et montrer ses vidéos, que c'est comme des vidéos de vacances, c'est Célipote qui visite Thérésine.
Quand lui propose, moi je ne trouve pas que ce soit une erreur, à l'inverse, elle s'est totalement trompée, me semble-t-il.
Moi, je pense j'aurais vraiment préféré quelqu'un qui connaît l'œuvre, qui a étudié peut-être même un peu la musique, la partition, sans forcément que ce soit un musicien.
Là, nous ne sommes pas d'accord, Charles Ardenne.
Très bien, c'est la dispute.
Il faut prendre des risques.
Il faut prendre des risques, il faut de l'air frais.
Elle aurait pu prendre quelques années, plus qu'un an et demi, pour travailler la partition, réfléchir, avoir un discours, un projet. Ça aurait été bien plus intéressant.
Quand on prend des risques, ça ne marche pas toujours. C'est la preuve.
Oui, enfin, prendre des risques avec le camp nazi de Thérésine, je trouve ça. C'est tout ce qui m'a posé problème dans cette mise en scène.
Lucille Comeau.
Oui, en fait, le risque qu'elle prend, c'est celui du malaise. Le produire un malaise, ça peut être une très bonne piste de travail. Le problème, c'est que là, elle ne crée pas tellement de malaise. En revanche, elle crée une forme de honte parce que l'esprit viennois il est là, enfin, c'est impossible de l'enlever, même avec une tout petite orchestre, même avec des jeunes chanteurs. On a le comique, le déploiement de ce qu'est l'esprit de la chauve-souris. Donc, du coup, on se prend à être dans quelque chose de complètement schizophrénique, à rire de quelque chose. On se dit immédiatement, ah non, mais alors, on devrait pas rire parce que, en fait, contexte, ah, on a oublié. Et puis, par ailleurs, là, pour le coup, autant il y avait une intelligence musicale chez Varlikovsky, autant là, il y a des gros problèmes de ce point de vue. Et bon, je rejoins pas Charles Arden complètement sur la question du travail, mais on sent quand même qu'il y a un petit problème avec l'utilisation de la musique, c'est-à-dire qu'elle utilise chaque passage qu'elle imagine, dont elle imagine qu'ils sont un tout petit peu plus tristes, enfin mélancoliques que le reste, à savoir une chanson sur le regret de la patrie, ou alors un moment de séparation qui est complètement comique, en fait, dans l'ouvrage. La séparation entre Rosalind et son amant, c'est pas du tout un moment déchirant, et à ces moments-là, elle plaque les vidéos, enfin c'est et là, il y a un problème de rythme énorme, vraiment. Et puis c'est gênant, vraiment. Enfin, moi, ça m'a beaucoup gêné. Hein.
Bon, parlons de musique. Hein. Il s'agit d'une réduction pour cet instrument, on l'a dit. C'est une réduction écrite par Didier Puntos. C'est Faisal Karoui qui dirige ce petit ensemble. On va en parler, mais on va d'abord quand même écouter un extrait, un trio qui réunit les principaux rôles à l'acte 1.
Solchem Advokaten ist Herr Kaufmann verraten, da verliert man die Geduld. Du geht wurscht, doch dass er die Sache beendet, hat's noch schlimmer sich gewendet. Und daran ist er noch schuld.
Er ist schuld.
Er ist schuld. Der wäre schuld.
Ja, der ist ganz allein nur schuld.
Das ist nicht wahr.
Du wirst schon sehen.
Was ist geschehen, erkläre dich.
So rühre mich.
Wenn es will, ich verteidige mich.
Ersparen Sie sich diese Mühe. So etwas ist nicht zu verteidigen.
Scheint Sie wollen nicht beleidigen.
Ruhig, Mut, warum der Mut?
Der Herr Mutter schwarz wie ein Stein.
Herr Eisenstein fing an zu schreien.
Sie stimmten ja bei mir im Volk.
Sie schimpfen ja in eine Farce.
Sie wehren wie ein Mann.
Sie sind ein Gromier.
Sie sind ein Blinder,
Sie sind der Illuminati,
Sie sind wie im Fieber,
und Gott sind wie ein Bruder.
Charles Arden, alors, parlez plus de mise en scène, parlez plutôt de la réduction orchestrale, si vous voulez bien. Je plaisante, mais c'est parce que le temps file.
Bien sûr, mais je vais peut-être en parler, glisser deux, trois allusions.
Non.
J'ai trouvé la réduction orchestrale remarquable, presque autant que le plateau vocal, et vraiment à l'inverse de la mise en scène. Réduire l'orchestre de Strauss, tous les élans, le tourbillon de la valse, en 7 instruments, ça semble complètement impossible. Ce serait un peu comme faire rentrer le beau Danube bleu, qui est une autre composition célèbre de Johann Strauss II, dans une petite chambre. Je m'attendais à une version un peu souffroteuse, un peu malingre, en lien avec un esprit de camp de concentration. Bon, évidemment, il n'y avait pas du tout ça. Il y avait de la fougue, de la vitalité, de la jeunesse, de l'élan. J'ai trouvé que ça marchait vraiment remarquablement, alors que c'est encore une fois une gageure, un pari très étonnant de faire cette donc adaptation musicale, comme dit Didier Puntos. C'est vraiment une adaptation, pas seulement une réduction. C'est clair, c'est bien organisé. Ça soutient très bien le plateau vocal. Déjà, rien que le fait de choisir ces 7 instruments-là, piano, quatuor à cordes graves, ça porte le plateau vocal aussi.
Et sur ce plateau vocal, Lucille Comeau, pour enchaîner, mais vous pouvez pas aussi parler de l'orchestre.
Oui, alors bon, sur l'orchestre, je suis d'accord avec Charles. J'ai eu peur au début. Encore une fois, je trouve que la salle supporte.
Oui, là où on l'a vu grand, à Bobigny, c'est très grand.
Notamment au début, ça sonne quand même assez petit. Et en effet, on est assez vite convaincu, ça fonctionne bien.
Ouais.
Moi, je suis très enthousiaste aussi sur le plateau vocal. Et notamment, moi, j'ai vu Angélique Boudeville. Voilà.
Hein,
alors
évidemment.
Moi, j'ai vu Angélique Boudeville dans le rôle principal. Je l'ai trouvé. C'est la première fois que je l'entendais et que je la voyais. Je l'ai trouvé assez incroyable. Je trouve sa voix vraiment magnifique. Elle a une opulence vraiment de vocale splendide et une présence scénique vraiment vraiment très, et encore une fois c'est bon, j'aimerais pas revenir sur la mise en scène, mais il y a un tel contraste typiquement entre elle, ce qu'elle donne de l'esprit viennois dans tout son humour, dans tout son pétillement, que ça, c'est bizarre, ça, on a envie de la regarder elle et de l'entendre elle, mais de pas de zapper ce qu'il y a autour.
Emmanuel Dupuis.
Oui, on retrouve par le chant l'allégresse que le théâtre refuse d'une certaine manière. Et c'est vrai pour la distribution dont vous parliez. Et c'est vrai aussi pour l'autre distribution que moi j'ai entendue.
Moi aussi, Adriana González.
Avec Adriana González. Qu'on entendait d'ailleurs dans cette
émission. Une énergie
qui a une énergie effectivement d'actrice assez phénoménale. Ouais. Et puis un timbre pulpeux. Moi, elle m'a rappelé la jeune Sonia Yoncheva.
Il y a quelque chose de ça.
Et puis, à côté d'elle, un jeune baryton français qui s'appelle Timothée Varron, qui joue le rôle des Einstein. D'abord, c'est un excellent comédien qui lui aussi a une vitalité physique. Scénique absolument sidérante et puis
on voit qu'il se régale
et puis un timbre carnassier c'est vraiment très tous les deux sont vraiment très 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 convaincants. Mais voilà, on sent effectivement par moment une espèce de contradiction entre ce que eux donnent et ce qu'on leur demande de faire, quoi.
Un petit mot encore, Lucille Comeau.
C'est vrai qu'on sent qu'à l'Atelier Lyrique, ils travaillent énormément la question du jeu. Moi, j'avais vu une autre production de ce type-là, aussi à la MC 93, avec des chanteurs de l'Académie. Et ils ont tous une aisance. Vraiment, c'est impressionnant. Ça a fait envie, quoi.
Les artistes complets. Bon, cette chauve-souris de Johann Strauss, direction musicale de Faysal Karoubi, mise en scène, Célie Pote, sera visible le 26 avril au Théâtre Impérial de Compiègne, les 15 et 17 mai à la Maison de la Culture d'Amiens, et puis les 22 et 24 mai à la MC2 de Grenoble. C'est l'heure du coup de cœur d'Emmanuel Dupuis, coup de cœur pour Ariane et Barbe Bleue que vous êtes allés voir et entendre au Capitole à Toulouse.
Exactement, et c'est un bonheur immense d'entendre Ariane et Barbe Bleue, parce qu'Ariane et Barbe Bleue c'est vraiment un des grands chefs-d'œuvre de l'opéra français de la première moitié du XXe siècle, avec une orchestration absolument luxuriante qui est en l'occurrence remarquablement défendue par Pascal Roffé, à la tête de l'orchestre du Capitole de Toulouse, un orchestre que l'on sait très aguerri dans le répertoire français depuis des décennies maintenant. Dans cet opéra, il y a un rôle absolument écrasant, c'est le rôle d'Ariane. Il est tenu par Sophie Koch, qui chante ce rôle-là pour la première fois. Elle est absolument fabuleuse, parce qu'il y a maintenant dans sa voix, dans son chant, un muscle, une endurance qu'elle n'avait pas auparavant, que maintenant elle a trouvé. Il y a quelque chose de vraiment très dramatique dans son chant. Et puis en même temps, un art de la déclamation absolument souverain. C'est vraiment une performance de tragédienne fabuleuse. Le reste de la distribution est sans maillon faible. Pour la petite histoire, il y a un rôle muet dans Ariane et Barbe Bleue. C'est le rôle d'Aladin. Et ce rôle-là est tenu par une certaine Dominique Sanda. En ce qui concerne ensuite la mise en scène, c'est une mise en scène signée Stefano Poda. Et c'est un spectacle extrêmement poétique et en même temps très intelligent, qui nous plonge dans la psyché de la protagoniste. Et c'est un spectacle aussi visuellement qui est très abouti. Stefano Poda est metteur en scène, mais aussi décorateur, costumier, éclairagiste. Et ces spectacles sont pensés sur le plan visuel dans le moindre détail. Donc cela fait une somme de qualité assez inestimable pour ce spectacle tout simplement magistral, à ne pas rater, au Capitole de Toulouse jusqu'au 14 avril.
Eh ben, ça envoie au Capitole de Toulouse jusqu'au 14 avril avec cette Ariane et Barbemuret Paul Ducasse dirigée par Pascal Roffet, mise en scène Stefano Poda.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
Le dernier sujet de notre programme ce soir, c'est un disque, la 9e symphonie de Beethoven, dirigée par Seiji Ozawa à la tête du Mito Chamber Orchestra. Il a 83 ans, le chef japonais, il grave ce tube de la musique classique pour la 3e fois, 45 ans après la première, c'était en studio pour Philips, 17 ans après la seconde, en concert déjà pour Decca, là c'est toujours live, c'est toujours pour le Decca. On va parler de ce nouveau disque, mais un résumé, mais vraiment quelques mots déjà, pour donner votre impression sur ce disque, Emmanuel Dupuis.
Écoutez,
écoutez
une version de la 9e symphonie, une 450e version de la 9e symphonie. J'avais quelques doutes, je le faisais un petit peu à reculons. Et puis finalement, j'ai pris pas mal de plaisir parce qu'il y a quand même une très grande fraîcheur dans cette approche.
Charles Ardenne.
Il y a une dimension tout de même testament, apaisée face au destin, mais énergique avec des échos fougueux.
Lucille Comeau.
Je trouve ça assez sec.
C'est bien comme phrase. Charles Ardenne, quelles sont les difficultés particulières de cette 9e symphonie ?
Les difficultés particulières, elles reposent déjà sur ce qu'est la 9e symphonie et même avant tout sur ce qu'elle représente. La 9e symphonie de Beethoven, c'est un monument, une légende, un sommet, voire le sommet, non seulement dans l'œuvre de Beethoven, mais dans la musique, dans l'art, dans la civilisation, dans tout ce que vous voulez. C'est l'ultime symphonie d'un génie musical ultime, c'est un aboutissement, notamment parce que c'est sa seule symphonie avec chœur, le chœur étant le fameux hymne à la joie qui est devenu l'hymne européen. À lui seul d'ailleurs, ce 4e et dernier mouvement avec chœur, c'est une œuvre absolue en soi, aussi longue d'ailleurs que la 8e symphonie de Beethoven, la précédente. D'ailleurs, sur ce disque, petite anecdote, le 4e mouvement est divisé en 8 plages, alors que les 3 premiers sont sur les 3 premières pistes. L'ultime mouvement de cette ultime symphonie, c'est toutes les passions à leur extrême, c'est la terreur, c'est la joie. La terreur aussi, encore une fois, pour ce que représente la 9e symphonie, on parle de la malédiction de la 9e symphonie pour les compositeurs tels que Schubert, Dvorak, Bruckner, Mahler, qui n'ont jamais réussi à faire la fameuse 10e avec l'ombre de tutélaire de Beethoven qui planait au-dessus d'eux. Ensuite, déjà, enregistrer la 9e symphonie, c'est se confronter à ce qu'est le CD. Le CD, la petite galette, ça a été calibré sur une version de la 9e, la version Furtwängler de Bayreuth en 51. Donc tous ces enjeux-là, ils sont immenses. Ils se posent, on l'a dit, à Ozawa, qui est assez âgé, qui a eu beaucoup de problèmes de maladie, et j'ai trouvé que justement il avait réussi à
votre avis, ce sera pour après, Charles Ardenne. Là, je vous demandais une description. Emmanuel Dupuis, j'ai parlé du Mito Chamber Orchestra, donc on est là, c'est une formation réduite. Qu'est-ce que ça change dans la façon de proposer l'œuvre?
Ça change beaucoup de choses. Enfin, ça dépend par rapport à quelle autre version, parce qu'en réalité, Seiji Ozawa se base sur l'édition critique qui a été de la partition qui a été établie par Jonathan Delmar. C'est un musicologue qui a travaillé sur les partitions de Beethoven, mais Ozawa n'est pas le premier à se baser sur cette édition. Simon Rattel l'a fait, Gardiner aussi, Claudio Abbado aussi.
Mais dans la mesure où c'est le tube, ce tube-là, on l'entend plus souvent par un grand ensemble.
Exactement, mais là, le résultat, c'est que on a des textures totalement différentes. Il faut savoir par exemple que Karajan, dans une de ses grandes versions de la 9e, utiliser 10 contrebasses, alors que Seiji Ozawa n'en utilise que 3. Donc forcément, vous avez des textures qui n'ont plus rien à voir, qui sont beaucoup plus transparentes, beaucoup plus allégées, mais qui replacent Beethoven dans sa filiation, c'est-à-dire la filiation de Mozart, de Haydn, enfin dans la filiation de la symphonie viennoise du 18e siècle. On a un Beethoven d'une certaine manière déromantisé, alors qu'il avait été romantisé par des chefs comme Furtwängler, Böhm et Karajan, effectivement.
On écoute un extrait de ce nouveau disque de cette 9e symphonie Beethoven par Seiji Ozawa, sans doute le passage le plus connu.
Oh, Frau,
Voilà pour cet extrait de la 9e symphonie de Beethoven, à nouveau gravé par Seiji Ozawa avec le Mito Chamber Orchestra. Résultat des courses, Lucille Como.
Oui, on l'entendait là, le chœur aussi a moins d'ampleur et ça change aussi quelque chose dans l'équilibre entre le quatuor de soliste et les parties de chœur. Moi, je trouve ça toujours assez intéressant de bousculer un peu son écoute des symphonies de Beethoven. Moi, je les connais en effet plutôt dans des grands effectifs. Ça me gêne. J'arrive pas à m'y faire. Je trouve qu'en effet, on est plus près du timbre. On entend, vous parliez des contrebasses, des choses qu'on n'entend pas quand il y a plus de cordes notamment, mais le côté vraiment très anti-romantique, très très déterminé de ce point de vue de l'interprétation,
très sec, me fait
ne plus entendre les contrastes que j'ai envie d'entendre, toute la dramaturgie qui est à l'œuvre. Vous parliez de ce dernier mouvement qui est en soi une sorte d'œuvre monde où il y a un nombre de choses qui se passent d'un point de vue presque du récit que là on entend moins. Moi, comme c'est pas une symphonie que par ailleurs j'aime beaucoup, j'ai l'impression d'être devant un gros bloc très sec dans lesquels il se passe pas grand-chose.
Emmanuel Dupuis, pour vous, plutôt une bonne surprise, disiez-vous.
Oui, mais j'ai un scoop d'abord, spécialement pour Lucille Como. Ah. Théodore Curensis est en train d'enregistrer les symphonies de Beethoven. Là, je pense que vous allez être dérangé dans vos habitudes d'écoute.
Ça va aller plus vite. Ce sera évacué en cette
idole
minute.
Idole de Lucille Como, passion que ne partage pas forcément Emmanuel Dupuis.
Pas toujours.
Voilà, c'est pour donner des indications à nos auditrices et auditeurs.
Ouais. J'espère. Oui, enfin, cet enregistrement pose toujours l'éternelle question, c'est-à-dire, est-ce que ça sert à quelque chose d'enregistrer pour la énième fois la même œuvre? Et moi, je dis oui, sans hésitation, oui. Et d'ailleurs, bon, d'autres chefs l'ont prouvé. Et avec une optique assez similaire. Je parlais de Gardiner, de Rattel, tout à l'heure, qui déjà, eux étaient revenus à ces effectifs allégés, à cette manière, peut-être plus vive aussi, plus acérée de jouer cette musique. Simon Rattel a enregistré les 9 symphonies de Beethoven à 2 reprises récemment, à 15 ans d'écart, simplement. La première fois avec le Philharmonique de Vienne, la seconde fois avec le Philharmonique de Berlin. Ce sont vraiment des versions qui ont renouvelé.
On a parlé de la version avec Berlin.
Qui ont vraiment renouvelé notre intérêt. Et donc il faut continuer à enregistrer cette musique et moi j'étais très heureux d'entendre cette version de Seiji Ozawa, même si je dirais que lui son problème justement c'est son orchestre, le Mito Chamber Orchestra. C'est un jeune orchestre qui est né en 1990, c'est un très bon orchestre, mais justement ce n'est ni Vienne ni Berlin. Il n'y a pas la culture du son qu'il y a et même la couleur que l'on trouve avec les orchestres germaniques. Et c'est un petit peu ça qui...
En même temps, c'est ce qui apporte la différence aussi. Tant qu'à faire une 850e version, autant qu'elle soit peut-être jouée différemment par d'autres musiciens qui n'ont pas la même culture. Non, je dis ça pour
Oui, pourquoi pas. Mais malgré tout, il manque cette profondeur du son et par voie de conséquence, il manque aussi une sorte d'épaisseur mystique,
un peu de folie,
que l'on trouve dans les grandes versions historiques et là qui m'a un petit peu manqué.
Par ailleurs, d'accord avec vous. Charles Ardenne, sur cette version.
Ben justement, moi, je pense ce qui a démultiplié mon plaisir, c'est que j'ai réécouté les versions, la version 74, la version 2002, et j'ai pu apprécier vraiment l'évolution. C'est ça qui m'a vraiment inspiré dans ce testament. En effet, ces côtés un peu mesurés, des fois un peu lointains, un peu distants, il y a même des paramètres qui ont l'air un peu chétifs par rapport à ce qu'on attend de cette partition, mais il y a une énergie initiale dans chacun des mouvements, notamment les deux premiers. Alors après, ça manque un tout petit peu de souffle au milieu des mouvements, mais ça finit dans une délicatesse vraiment, vraiment éblouissante. Le troisième mouvement, moi, rien que le troisième mouvement, je l'ai réécouté vraiment beaucoup, beaucoup de fois. Il y a une amplitude élégiaque dès le début, des chants de pizzicati, des sons glissés, filés, portés. Et puis, dans le quatrième mouvement, je tiens aussi à dire que les choristes et les solistes ont une prononciation allemande qui est assez remarquable.
Pas d'accord, Emmanuel Dupuis.
Sur la prononciation, oui, si, mais j'ai quelques réserves sur le chœur que j'ai trouvé pas très hémogène, pas mal d'écarts de justesse aussi. Et je trouve que ça ruine un petit peu quand même ce final.
Complètement. L'entrée du soliste en voix grave est très belle, très lyrique. Mais après, en effet, ça se gâte beaucoup, ça se distend et ça influence même l'orchestre, je trouve, qui prend un son de un peu de fanfare, d'harmonique, un peu décalé. Mais à la fin, et si on peut voir juste cette petite extrait vidéo en ligne qui est assez facile à trouver, on voit Ozawa finir le mouvement éreinté, blessé. On a l'impression qu'il est à la fois réjoui et malade. Enfin, c'est assez bouleversant.
Même depuis le dernier mot, vraiment.
Il faut préciser que c'est un enregistrement public, donc forcément avec des imperfections. Et malgré les réserves qu'on a, je trouve que c'est quand même une version assez solaire et qui, en tout cas, témoigne de la capacité d'Ozawa à 83 ans à se renouveler, et ça c'est quand même assez touchant, et voilà, rien que pour ça il faut
écouter, se procurer cette 9e symphonie de Beethoven dirigée par Seiji Ozawa avec le Mito Chamber Orchestra, c'est chez Decca. Et avant de conclure cette émission, Joséphine Dumoulin nous a rejoint, comme chaque soir, porteuse de questions mais aussi de réponses. Concernant le jeu de la dispute, question-réponse d'hier soir, Joséphine.
La question était: quel objet fabriqué avec du parchemin est considéré comme l'ancêtre du livre papier? Et la réponse était le codex.
Ce soir, nous allons faire gagner des invitations pour aller voir le spectacle Les Cartographies de Frédéric Ferrer, présenté au Montfort Théâtre. Des places à gagner pour samedi soir, 13 avril. C'est à 19h30. Quelle est la question, Joséphine?
Quel était le premier métier exercé par le metteur en scène Frédéric Ferrer?
Si vous avez la réponse, vous nous l'envoyez avec vos coordonnées postales, tout cela par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Joséphine Dumoulin, réalisée par Alexandre Fougeron, à la prise de son Bruno Gagnère-Fontani, que je salue bien bas après toutes ces années, parce que bon, c'est pas moi qui m'en reste, c'est lui qui va s'en aller. Bon, il a encore plus d'années que moi dans cette maison, mais en tout cas, voilà, on a passé beaucoup de temps, lui d'un côté de la vitre et moi de l'autre. Donc salut à Bruno. Concernant cette émission, savoir qu'on peut se rendre sur le site franceculture.fr et trouver la page de la dispute et avoir toute information sur nos émissions, réécouter, podcaster. On se retrouve demain à 19h pour une dispute art plastique avec Anaël Pijat, Sally Bonne, Florian Guettet. Nous parlerons de l'exposition Jeunes artistes en Europe à la Fondation Cartier. Qu'en faire, c'est dire. Angelica Mesiti au Palais de Tokyo, la lune du voyage réel au voyage imaginaire au Grand Palais, un coup de cœur de Florian Guettet pour le livre d'Anne Kreisels, le geste emprunté aux éditions du Félin.